Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors c'est une émission un peu spéciale, nous sommes à Aix-en-Provence, les rencontres du cercle des économistes, c'est pas compliqué, se concentre ici ce week-end, allez, tout ce que l'économie française compte de patrons, d'économistes, de responsables politiques. Et donc, vous pensez bien qu'on en a profité pour faire notre marché. Nous avons profité de la présence d'auteurs importants ici pour vous proposer cette librairie exceptionnelle. Nous accueillerons dans la deuxième partie de l'émission Philippe Chalmin, le coordinateur du rapport Cyclope sur les matières premières, et Hippolyte Dalbis pour explorer toute la problématique des pénuries de main-d'œuvre. Main-d'œuvre, matières premières avec Philippe Chalmin. Pénurie de matières premières avec Philippe Chalmin. Pénurie de main-d'œuvre avec Hippolyte Dalbis, et notamment la problématique de l'emploi des seniors. Mais tout de suite, on retrouve nos deux premiers invités. Ah. 2022 aura été dans beaucoup de domaines une année de rupture. Alors, dans quel univers financier nous projette le retour de l'inflation et la hausse des taux d'intérêt? Comment les banques vont-elles s'adapter? Réponse avec vous, Olivier Klein. Vous êtes directeur général du groupe Bread et vous publiez « Crise et mutation, petite leçon bancaire » aux éditions Erol. Et puis, est-ce que 2022 restera comme une année de rupture pour l'économie française? Peut-elle encore enrayer la spirale du déclin? Réponse avec vous, Christian Saint-Étienne. Vous êtes économiste, vous publiez avec Philippe Ancel « La France, déclin ou renaissance ?» chez Economica. Alors, je commence avec vous, Christian Saint-Étienne, et allez, je vais commencer par une petite taquinerie. Je suis allé retrouver le titre de tous les livres que vous avez publiés depuis, allez, j'allais dire 30 ans. Alors, je vous en cite quelques-uns. 1995, le combat de la France, deux points, de la décomposition au renouveau. 2008, la France est-elle en faillite ? 2012, l'incohérence française. 2015, la France 3.0, agir, espérer, réinventer. 2016, vous écrivez, vous sortez un livre qui s'appelle « Relever la France ». Et donc aujourd'hui, France déclin ou renaissance? Christian Saint-Étienne, est-ce que vous y croyez encore au sursaut, au redressement de la France?
Écoutez, c'est presque la chronique des occasions manquées depuis 30 ans.
Absolument.
Parce que la France, depuis 30 ans.
Absolument.
Parce que la France a un potentiel phénoménal. Ça rappelle un peu le mot du général de Gaulle à propos du Brésil. Il avait dit à 50 ans, le Brésil a un grand avenir devant lui, il l'aura pendant longtemps. Et donc la France a un potentiel phénoménal qu'elle ne réalise pas. Quand vous êtes ici à Aix-en-Provence, si vous allez à côté à Marseille, si vous vous déplacez sur la totalité du territoire français et que vous imaginez que notre pays soit gouverné sans le côté autoritaire, mais par le gouvernement de Singapour ou par des gouvernements qui appliquent la raison à l'action gouvernementale, la France devrait être à 4% de croissance. Alors, il n'y a aucune raison que le petit caillou suisse ait un niveau de vie 50% supérieur au nôtre.
Alors, c'est ça le message en fait que vous délivrez. Vous dites finalement, il n'y a pas un pays qui gâche plus ses chances que la France.
Exactement. C'est-à-dire que, très objectivement,
nos atouts, c'est quoi?
Alors, les atouts, c'est d'abord un territoire extraordinaire et surtout phénoménalement bien situé sur le plan géostratégique. Nous sommes à la rencontre des mers et des océans qui ont compté pendant longtemps, mais beaucoup de richesses se déploient sur le Pacifique. Un peu moins, le basculement vers le Pacifique est un peu moins fort que ce qu'on imaginait il y a 15 ans. parce que l'Atlantique résiste, mais d'une certaine façon, le potentiel scientifique qu'on n'a pas développé suffisamment, avec un effort de recherche et développement qui est insuffisant, beaucoup plus faible qu'au temps du général de Gaulle. On a un système éducatif qui fonctionnait bien, on l'a laissé partir à la dérive il y a une au moment du collège unique par la réforme de 1978. Donc ça fait plus de 40 ans que le pays a renoncé à ce qui était au cœur de notre histoire depuis 5 siècles, c'est-à-dire la recherche de l'excellence. On a un peuple qui est extrêmement travailleur. Naturellement, nous avons les meilleurs ouvriers de France. Ce mouvement, au lieu de l'encourager.
On est dans le pays dans lequel finalement on a le moins d'heures travaillées par,
oui,
par habitant.
Oui, mais c'était pas. Vous vous souvenez, c'était pas du tout une demande des syndicats.
Ouais, ouais,
ça a été les politiques qui ont fait des erreurs d'appréciation de la transformation du monde. Nous subissons, si on regarde juste les 25 dernières années, nous subissons la colossale erreur d'analyse qui a été commise par par l'intelligentsia française dans les années 92, 93, 94, où à la fois les économistes, les politiques, les sociologues ont laissé passer l'idée qu'on entrait dans un monde post-industriel. C'était déjà faux, puisqu'on était entré dans la troisième révolution industrielle du numérique dans les années 80. Mais dans les années 90, ça devenait de plus en plus évident. Et on a fait une erreur d'appréciation colossale. Les 35 heures, ça répondait à l'idée qu'on avait qu'on entrait dans un monde sans travail. Regardez, aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver suffisamment de gens pour répondre aux demandes des entreprises. Ouais. Donc, il n'y a aucune limite au développement économique. Il faut simplement conduire le développement par l'intelligence et l'organisation.
Alors, justement... Vous dites finalement le vrai handicap de la France, c'est la gouvernance publique.
Alors, bon, j'espère que vous me gardez jusqu'à la fin de l'émission. Je pense qu'il y a deux problèmes majeurs. C'est l'effondrement de l'intelligence publique. On a un État extrêmement lourd, sans aucune vision. Donc, il faudrait l'alléger et le transformer en État stratège. Et l'autre point qui me semble important, pour ça que c'est peut-être ma dernière minute sur BFM TV, mais je pense que les journalistes font pas plus et pas mieux que ça, en dehors de cette émission.
Ouais, mais là, pour le coup, je pense que vous nous prêtez beaucoup plus de pouvoir que nous n'en avons vraiment.
Mais souvent la classe médiatique commente les faits et gestes des politiques, et au lieu de commenter les grands choix stratégiques, et contrairement à la presse anglo-saxonne. Donc je pense que à la fois sur le plan politique et sur le plan médiatique, on a une déficience majeure. Et si on rajoute à cela que les maîtres, le niveau des maîtres dans les écoles primaires a fortement baissé, je vais encore me faire plein d'amis, on se retrouve donc dans une situation où les trois sphères fondamentales ne fonctionnent pas pour le développement. C'est d'ailleurs extraordinaire qu'il reste autant d'intelligence française en dépit de ces trois déficiences.
Alors, sauf que Christian Saint-Étienne, quand vous parlez des grands choix stratégiques, ce qui frappe aussi dans votre livre, c'est qu'on se rend compte que finalement, même si on a eu des alternances politiques, il y a eu une forme d'incroyable continuité,
oui, la continuité dans
la trajectoire réglementaire, dans la trajectoire
dans
fiscale,
la réglementation,
etc.
Oui, oui. Et je pense que en lien avec les mauvais choix des années 90 qui conduisent à la désindustrialisation massive que nous subissons, je pense qu'à BFM Business, tous les auditeurs, téléspectateurs savent que la France est le pays qui s'est le plus désindustrialisé dans les 20 dernières années. Mais quand vous regardez justement ces années 90, ça commence dans les années 70-80, mais ça s'accélère dans les années 90, on assiste à l'arrivée massive des énarques. Et je ne suis pas contre l'ENA. L'ENA, c'est très bien dans l'administration. Et on assiste à l'arrivée massive des énarques dans la politique et dans les entreprises. Et ils mettent sur le côté les ingénieurs. Alors, la Chine est une dictature communiste monstrueuse. Mais quand on regarde son développement économique, il est phénoménal. Et si vous regardez le bureau politique du Parti communiste chinois, sur les 7 membres permanents du bureau politique, vous avez 6 ingénieurs. Il n'y a quasiment plus d'ingénieurs dans les classes dirigeantes françaises. Et ça, c'est un élément de faiblesse quand on veut réindustrialiser.
Mais ce que vous dites, c'est que, oui, la Chine est une dictature autoritaire, mais qu'on aurait tort de croire que toutes les décisions sont prises en fonction de la volonté de maintenir ce pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a des ingénieurs, il y a des décideurs qui prennent des décisions.
Tout à fait. C'est-à-dire que la grande révolution chinoise des 40 dernières années, c'est évidemment Deng Xiaoping, avec cette pensée conceptuelle d'une puissance illimitée qui est qu'importe la couleur du chat du moment qu'il attrape la souris. Et donc, avec cette idée fondamentale, il a totalement changé la Chine. Xi Jinping, c'est le retour d'une violence maoïste à la tête de la Chine, mais sur le plan économique, il est resté dinguiste, c'est-à-dire que c'est toujours le chat qui attrape la souris qu'on met en avant. Et ce qui est intéressant, c'est dans la comparaison avec l'Inde et la Chine. Très souvent, on me dit, bon, vous parlez beaucoup de la Chine, vous parlez pas beaucoup de l'Inde. Mais l'Inde, aujourd'hui, a le PIB de la France. Et quand on regarde le problème central de l'Inde, c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure. Alors, ce parti communiste totalitaire chinois, néanmoins, pendant 40 ans, il a développé un ensemble d'infrastructures absolument colossales qui expliquent le développement de la Chine.
Alors, néanmoins, Christian Saint-Étienne, dans votre livre, vous dites « Il y a une porte de sortie dans le mur de la dette et de la médiocrité devant lequel la colère du peuple monte ».
Oui, on le voit avec toutes les demandes de pouvoir d'achat et
autres.
Mais
alors, c'est quoi cette porte de sortie ?
La porte de sortie, c'est la mise en place d'une politique stratégique cohérente qui remette les moyens sur l'investissement, qui surtout s'interroge sur l'efficacité de la dépense publique. On a une dépense publique tendancielle à 56 points de PIB. Actuellement, on est au-dessus. Mais on est 9 points, j'ai refait les calculs cette semaine pour un article, on est toujours 9 points de PIB de plus que la moyenne des 18 autres pays de la zone euro. Et quand vous regardez les résultats, je ne suis pas contre la dépense publique, moi, je trouve ça très bien. Si tous les enfants de France sortaient à 20 ans en parlant 5 langues et connaissant tous les logiciels et en trouvant un boulot immédiatement, c'est merveilleux. Mais quand vous avez un taux de chômage des jeunes qui reste double des Allemands, des jeunes Allemands, quand vous avez des infrastructures qui sont vieillissantes, une insécurité galopante, un taux de chômage qui reste élevé, c'est que c'est pas la dépense publique qui provoque le développement, ce sont les entreprises. Donc la puissance publique doit se concentrer sur les infrastructures, sur l'école. Il y a une réforme de l'école absolument fondamentale à opérer. Vous savez qu'on a plus appris sur le fonctionnement du cerveau depuis 5 ans que dans les 5000 ans qui ont précédé. Vous avez des travaux extraordinaires qui sont conduits par Stanislas Dehaene au Collège de France qui montrent que les 3 années cruciales de la formation d'un individu, c'est la dernière année de maternelle, le cours préparatoire, le CE1. C'est là où il faut mettre le paquet, pas seulement par le dédoublement dans quelques écoles, mais il faut mettre le paquet dans toutes les écoles de France. Et il faut surtout s'assurer que tous les enfants, à la fin du CE1, sachent lire, écrire et compter. Bon, cet effort-là n'est pas fait. En revanche, on vous trouve 60 milliards pour défendre le pouvoir d'achat. Dans un pays où on a une crise d'offres fondamentale, la moitié de cet argent va partir en augmentation du déficit extérieur.
Alors, Christian Saint-Étienne, pour terminer, qu'est-ce qui pourrait être le déclencheur de ce qui serait quasiment une révolution culturelle pour notre administration à la française ? Est-ce que c'est parce qu'un jour on n'aura plus les moyens, que le FMI sera à nos portes comme il a été aux portes de Londres à la fin des années 70 ?
Donc si... Je crains que vous n'ayez raison, mais si on en arrive là, ça sera la fin de l'échec de 40 années de débilité publique. Néanmoins, on peut imaginer un autre déclencheur, c'est-à-dire la mise en place d'une politique stratégique de réindustrialisation, une vraie réforme de l'école et un effort colossal de développement de l'innovation en allant très au-delà de ce qui est à juste titre fait actuellement sur les start-up, mais qui, grâce aux fonds d'investissement des banques, permettrait d'accélérer le développement des PME et des ETI. Il faut qu'on double le nombre d'ETI françaises. Doubler le nombre des ETI françaises devrait être l'axe cardinal de toute la politique publique.
Résout quand même énormément de problèmes.
Ça résout énormément de problèmes. Si vous doublez le nombre d'ETI, vous n'avez plus de déficit extérieur et vous avez un taux de chômage qui est divisé par 2. Et donc les banques ont un rôle central à jouer dans ce domaine avec l'appui de l'État.
Vous devriez être journaliste pros, hein. Aussi, Christian Saint-Étienne, parce qu'effectivement, on parlait des ruptures de tendance qui nous attendent, qui nous guettent, et donc, Olivier Klein, s'il y a bien un secteur dont on nous a promis quand même des ruptures successives, c'est bien le secteur de l'industrie bancaire. Vous citez dans votre livre le fameux rapport Nora Mink où on nous dit « Oh là là, la banque, ça va être la sidérurgie des années 2000 ». Et la banque, finalement, L'usager, honnêtement, il n'a pas l'impression que ça a changé tant que ça. Est-ce que l'industrie de la banque, c'est il faut que tout change pour que rien ne change ?
Je pense plus profondément que, en réalité, il faut mieux penser les mutations et les crises. Et que très souvent, on ne les pense pas bien, ce qui veut dire qu'on n'anticipe pas, parce qu'on n'a pas de pensée. En réalité, toutes les mutations, les crises économico-sociétales, je ne parle pas de l'éruption d'une pandémie ou de la guerre, mais les crises économico-sociétales sont des moments de passage, en règle générale, d'un mode de régulation qui marchait bien, avec de la croissance, des gains de productivité, avec des moteurs de l'économie qui tournent bien, à un autre. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il y a un mode de régulation de l'économie qui s'effrite et qui, dont l'efficacité s'affaiblit au bout de 30 ans, 40 ans. Et souvent, il y a des révolutions technologiques. Ces révolutions technologiques vont apporter de nouveaux modes de production, de nouveaux modes de consommation, des nouvelles normes de consommation, des nouvelles normes salariales et retrouver pendant 30-40 ans une nouvelle croissance avec la productivité. Mais pendant le temps où ça change... Oui. Là, il y a la crise. Mais la crise, elle peut durer 10 ans. Et donc, la disruption, comme certains ont à la bouche en permanence pour dire qu'il faut tout disrupter, d'une façon, à mon avis, une facilité
de penser. La disruption, vous dites, y a pas, on ne se couche pas le soir et on ne se réveille pas le lendemain dans un monde nouveau.
Et non. Et dans la banque, là où, pour revenir à la banque, certains ont fait des erreurs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pensé tout d'un coup qu'avec la révolution numérique, on allait tout à coup... tout changer, qu'il n'y avait plus besoin d'agences, qu'il n'y avait plus besoin de gens qui travaillent dans les agences, des conseillers, etc. Mais c'était ne pas comprendre le métier. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il faut réfléchir à l'essence même de son métier et voir pourquoi il est utile. Et quand on réfléchit correctement à cela, on est capable d'anticiper un minimum, quitte à faire du tâtonnement pour y aller, hein, avoir une vision sur là où il faut aller. Ça prend un peu de temps, mais c'est socialement acceptable. Il faut l'expliquer, le démontrer, emmener les gens, et on le réussit. Et la réalité, c'est pourquoi les banques aujourd'hui, la plupart des banques, sont-elles encore là ? Alors qu'on nous disait qu'on allait être disrupté par des fintechs, par des néobanques, etc. Pourquoi les banques sont encore là ? Alors que les néobanques, il n'y a pas une seule. Pas une seule qui gagne de l'argent en Europe. Mais parce que tout simplement, les banques ont fait l'analyse, ou la plupart des banques ont fait leur analyse de ce qui était essentiel dans ce qu'ils faisaient. Et d'un côté, il y a... Le transactionnel, ça, on le numérise, on le digitalise. Tout ce qui n'est pas en réalité nécessaire d'avoir de la valeur ajoutée humaine et qui est répétitif, on le digitalise. Et tout ce qui est au contraire nécessaire pour apporter de la valeur ajoutée aux clients, on le renforce. Et c'est ce que modestement on a fait dans
la brède. Ça veut dire quoi ? Parce que bon, on voit bien les griefs qui sont montés au fil des années à l'encontre des banques. Alors j'en ai notamment une, et je pense pas que Christian Saint-Etienne me dira le contraire. C'était cette idée que quand une entreprise, une PME allait voir un banquier pour demander un crédit, etc., vous n'aviez plus en face dans les agences un décideur, il fallait que ça remonte à plusieurs niveaux de décision,
ça dépend des banques,
etc., et que finalement tout ça était très déshumanisé. Est-ce que la technologie remet de l'humain et de la personnalisation dans le rapport entre la banque et son client ?
Pas systématiquement, il faut le vouloir. Et donc ce qu'on a essayé de faire, nous, précisément... C'est de se servir de la technologie pour sortir tout ce qui était transactionnel des agences, parce que ça n'a pas d'intérêt pour personne. C'est beaucoup plus pratique pour les gens de le faire depuis chez eux, au bureau, n'importe quand, n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Mais en revanche, cette même technologie nous a permis de libérer du temps dans nos agences pour que nos équipes de conseillers augmentent leur valeur ajoutée et le temps disponible pour chaque client, y compris pour les entreprises. Et on leur donne beaucoup plus de responsabilités naturellement pour qu'ils sachent décider face aux clients au plus près du terrain. Mais ça, ça fait toute la différence. Et ça fait la différence après dans le chiffre d'affaires, vous savez.
Alors, cette révolution technologique, vous avez dû la mener dans la quasi-totalité du temps, dans un univers financier très particulier, celui de la déflation, celui des taux d'intérêt nuls, celui des courbes de taux d'intérêt plates, c'est-à-dire que la différence entre les taux courts et les taux longs qui, en général, vous permettait aux banques de vous rémunérer, finalement, ça n'existait pas. Est-ce qu'aujourd'hui, dans un monde où l'inflation revient, où les taux d'intérêt s'annoncent plus élevés, est-ce qu'on a là une vraie rupture durable de l'univers financier des banques ?
Alors, d'abord, c'est tout à fait vrai que pendant 20 ans, on a vécu un rétrécissement de l'écart entre les taux longs et les taux courts, et tout ça se rapprochant vers zéro, et c'était pas bon pour les comptes de résultats bancaires. Il y a celles qui se sont dit, du coup, puisque j'ai moins de revenus, je tape dans les coups. Et puis il y a celles qui se sont dit, mais du coup, il faut réinventer aussi le métier bancaire grâce à la technologie, en pariant sur les hommes et en donnant de la valeur ajoutée bien supérieure. Je vous assure que ça fait une différence à l'issue de cela dans le PNB. Maintenant, la question, c'est, est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de changer de paradigme ? Oui et non. On n'est pas en train de changer de paradigme sur le besoin de conseil et des entreprises et des particuliers. Ils ont besoin de conseils. Et si on leur apporte un conseil à valeur ajoutée, ils sont preneurs. Et ça marche très bien quand on le fait comme cela. Maintenant, c'est sûr qu'on va retrouver un peu plus d'aise si les taux longs se différencient des taux courts et sont plus élevés que les taux courts durablement, ce que je pense qu'il devrait arriver, sauf s'il y avait une grosse récession. Alors, naturellement, on va retrouver un petit peu plus d'aise et on va pouvoir aller de l'avant davantage qu'avant. Simplement, les banques n'ont jamais failli pour faire les crédits qu'il fallait, je pense, à aucun moment des crises passées qu'on a vécues.
Alors, puisqu'on parlait de rupture, vous dites on va aussi rentrer, on rentre aussi dans un nouvel âge du capitalisme. Oui. Vous distinguez quatre phases, le capitalisme familial, le capitalisme managérial, le capitalisme actionnarial et le capitalisme patrimonial. Refaites-nous brièvement l'histoire.
Quand on a commencé le capitalisme, c'était des familles qui créaient, qui entreprenaient. Et tant que c'était des familles, ça se passait, alors vis-à-vis du travail, de façon plus ou moins facile, mais ça se développait comme cela. Et puis avec le développement du capitalisme et de ses structures familiales, il a fallu tôt ou tard que les chefs de famille, les responsables d'entreprise, qui étaient confondus, n'est-ce pas, laissent la main. Il y avait des descendants. Et puis il a fallu faire entrer des gens de l'extérieur parce que les descendants parfois n'étaient pas les meilleurs. Et les sociétés ont commencé à devenir, à s'ouvrir sur des sociétés actions et à développer naturellement un actionnariat plus large. Mais à partir de ce moment-là, contre la liquidité des actions ainsi obtenues, puisqu'il y avait la possibilité des familles de sortir ou pas des business dans lesquels ils étaient, il y a eu une sorte d'abandon de la direction des entreprises aux managers qui, eux, n'étaient plus forcément familiaux. Et pendant, des années 50 aux années 80, on a eu le développement du capitalisme managérial avec souvent des très bons managers, mais qui parfois répondaient davantage à leurs besoins de puissance et de grandeur personnelle qu'à l'intérêt des actionnaires qu'ils avaient un peu oublié. Et d'ailleurs, on retrace très bien financièrement le fait que ce n'était pas des années extraordinaires pour les détenteurs d'actions. Du coup, avec la mondialisation et la globalisation financière des années 80, il y a eu une révolution culturelle qui a consisté en réalité, ça a pris du temps naturellement, hein, jamais en disruption tout à coup, et qui a consisté à redonner la main aux actionnaires en faisant que les managers dépendaient totalement de leurs intérêts d'actionnaires, avec tout ce que ça avait de bien, parce que ça a permis par exemple les start-up, ça a permis aux petites entreprises d'avoir des gens très talentueux et de pouvoir les payer, pas en salaire, mais en capital. Et là, ça a changé la donne, ça a donné de l'innovation et c'était formidable. Mais il y a eu le revers de la médaille. C'est que trop souvent, les dirigeants ont été totalement alignés sur les intérêts des actionnaires, pas assez sur celui de la survie de l'entreprise et de son développement soutenable. Et de ce fait, on a eu des dérives capitalistiques dans ce capitalisme que j'appelle actionnarial, qui parfois on appelle financier, et des dérives qu'on a bien vues et dont l'explosion s'est faite en 2007.
Et donc le capitalisme patrimonial.
Alors le capitalisme partenarial. Ce que j'espère de mes voeux et qui commence de plus en plus, c'est celui qui consiste à dire il y a les actionnaires, il faut les respecter, il faut les rémunérer, ils prennent du risque, c'est légitime de les rémunérer. Mais il n'y a pas que dans l'intérêt autour de l'entreprise. Il y a les salariés qui, pour une part, prennent des risques dans l'entreprise. De travailler dans une entreprise, c'est aussi un risque. Pas le même, naturellement, mais il faut aussi les prendre en compte, évidemment, de façon profonde. Et puis, et par le partage, par exemple, par l'intéressement, participation, etc., qui sont d'excellentes choses pour aligner tout le monde, mais sur des intérêts durables. Et puis, naturellement, les clients. Les clients doivent être intégrés à la gestion, parce qu'on ne va pas faire quelque chose qui de très court terme, mais on a besoin que ces clients soient satisfaits dans le long terme. Donc, il faut les intégrer. Alors, évidemment, les banques coopératives, à ce titre-là, ou les banques mutualistes, ont leurs actionnaires qui sont leurs clients sociétaires et qui sont représentés au conseil d'administration. Mais c'est une forme parmi d'autres, il n'y a pas que celle-là. Enfin, il y a la société. La société qui s'impose de plus en plus, alors via la voie publique, hein, en quelque sorte, via Internet ou ce que vous voulez, ou les journaux, etc., et qui vient peser sur les choix des entreprises, parce que les entreprises n'ont pas intérêt à perdre leur réputation. Tout ceci commence à former un capitalisme plus partenarial qui permet davantage d'intégrer tout le monde. C'est l'avenir, probablement.
Eh ben voilà, on va conclure sur cette belle idée. C'est l'avenir. Espérons que les réformes que Christian Saint-Etienne appelle de ses voeux seront aussi l'avenir de la France.
Elles sont nécessaires, sans quoi il n'y aura rien d'autre.
Eh oui, merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos deux livres, Olivier Klein, Crise et mutation, petite leçon bancaire aux éditions Erol, et Christian Saint-Etienne, La France, déclin ou renaissance chez Economica. J'espère sincèrement, Christian, que c'est le dernier livre d'une longue série qui s'interroge sur notre déclin et qu'on pourra peut-être la prochaine fois aller espérer ouvrir des perspectives plus. Parler d'amour. Je ne sais pas si vous entendez les cigales, en tout cas, mais nous, rassurez-vous, elles sont bien là. Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho spéciale enregistrée ici au cœur des rencontres économiques d'Aix-en-Provence avec le Cercle des économistes. Alors, on profite de toutes les éminences qui sont ici à Aix-en-Provence, voilà, pour faire une émission spéciale avec ceux qui ont écrit des livres. Et donc, nous avons le plaisir de recevoir pour cette deuxième partie de l'émission Philippe Chalmin. Vous êtes coordinateur du rapport Cyclope, le 36e rapport Cyclope, qui dit tout ce que vous devez savoir sur les matières premières, de l'ananas au zirconium. C'est toujours vrai?
C'est toujours vrai. Et on peut même rajouter le marché de l'art et celui du sport.
Et avec nous aussi Hippolyte Talbis, vous êtes directeur de recherche au CNRS, professeur à l'École d'économie de Paris et président du Cercle des économistes, et vous publiez Les seniors et l'emploi aux presses de Sciences Po. Alors, c'est ça, Hippolyte?
Oui, bonjour Emmanuel, merci de me recevoir.
Alors, pourquoi je vous reçois tous les deux en même temps? Vous savez que dans la librairie, on aime bien qu'il y ait une colonne vertébrale thématique, et là, c'est un peu l'idée avec vous d'explorer finalement les deux grandes pénuries auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, les deux grandes contraintes d'offres finalement qui aujourd'hui freinent la croissance, la contrainte d'offres de matières premières, de produits de base, de commodités, et la contrainte d'offres sur la main-d'œuvre, avec Hippolyte l'enjeu crucial qui est finalement les seniors, parce que un des grands gisements de main-d'œuvre dont on va pouvoir disposer, c'est sans doute les seniors. Est-ce qu'on va être capable de les faire travailler plus? On commence avec vous, Philippe Chalmin, par justement les matières premières. Vous dites, au-delà de la pandémie et de la guerre en Ukraine, c'est un peu du rêve de la mondialisation des 30 dernières années qui s'efface. Ce monde d'hier, pour reprendre le titre du dernier livre de Stephen Zweig.
Oui, effectivement, nous avons sous-titré ce rapport Cyclope 2022 du titre du dernier livre de Stephen Zweig, celui qu'il écrit, il est à ce moment-là au Brésil, déprimé, et il va raconter l'ancien monde qu'il a vécu et qui va s'effondrer avec la montée du nazisme et la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi cette comparaison? Et là, c'est plutôt l'historien qui parle que l'économiste. C'est que ma lecture, et c'est ma thèse, et une thèse c'est totalement discutable bien entendu, c'est que cette crise qui passera à l'histoire comme celle de 2020-2022 et peut-être un peu au-delà, marquée à la fois par le Covid et puis par la guerre en Ukraine, elle marque une rupture profonde, un peu identique à celle qu'on avait connue dans les années 30 et dans les années 70. La crise des années 70, elle avait mis fin, souvenez-vous, aux 30 Glorieuses. Eh bien, je trouve, c'est un parallèle qui vaut ce qu'il vaut, que la crise que nous vivons aujourd'hui, elle met fin à ce qui avait commencé en 1990, c'est-à-dire les 30 Glorieuses de la mondialisation heureuse, ce moment où nous rêvions quelque part de la fin de l'histoire avec Fukuyama, et que aujourd'hui nous retrouvons un monde fracturé, oui, mais Philippe, un monde en crise, un monde plein de doutes et de remises en cause, y compris des politiques économiques.
Oui, mais Philippe, moi j'ai en tête aussi ce que disent les économistes sur ce qu'on appelle les super cycles des matières premières, c'est-à-dire qu'en gros, si j'ai bien retenu les leçons que vous m'avez prodiguées il y a quelques années, déjà, moi l'idée force que j'avais retenue, c'était en gros, c'est l'offre qui fait les prix des matières premières et pas la demande, et donc ce sont les cycles d'investissement dans la production de matières premières qui font les prix. Or, tous les 10 ans, 12 ans, on assiste effectivement à des cycles où eh bien, les prix sont élevés, on investit massivement jusqu'à ce que finalement l'offre soit trop abondante, les prix s'écroulent, on n'investit plus jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on n'en a pas assez. Et est-ce que c'est un super cycle comme ça ou c'est beaucoup plus que ça ?
C'est beaucoup plus que ça. Le super cycle, à la limite, je déteste, je hais cette expression de super cycle qui n'a aucun sens. Il y a effectivement
ça arrive tous les 10-15 ans quand même.
Il y a des cycles sur les marchés de matières premières. Nous avions connu effectivement dans les années 70 une forte tension sur pratiquement l'ensemble des marchés. Ensuite, les prix se sont effondrés dans les années 80-90 jusque aux tensions qu'on avait connues en 2008-2012. Si donc nous avions été dans cette logique de cycle de l'offre qui reste quand même tout à fait valable, nous aurions dû attendre encore quelques années. Simplement, là, nous avons une crise économique et je dirais même une crise morale, géopolitique totalement différente. Et c'est vrai que nous retrouvons actuellement une convergence de tensions, puisque c'est ce que nous racontons dans Cyclope. Nous avons à la fois une crise logistique, une crise énergétique, une crise sur les marchés des biens industriels, une crise qui est peut-être la moins importante, même si médiatiquement on en parle beaucoup, une crise agricole et alimentaire. Et toutes ces crises, au fond, elles font système entre elles, c'est-à-dire qu'on ne peut les lire que dans et par leurs relations avec les autres.
Mais est-ce qu'il y a des logiques quand même très particulières selon les types de matières premières industrielles, alimentaires,
énergétiques? Nous avons eu quand même nous avons eu un boom de la demande. Et c'est ce boom de la demande en particulier qui explique la crise logistique tout à fait sensible, en particulier sur le transport maritime des conteneurs, ce qui a joué sur nombre de matières premières qui se baladent en conteneurs. C'est pas, il n'y a pas uniquement les tankers et le vrac, il y a aussi beaucoup de matières premières, le café, le cacao, le coton qui se balade en conteneur et où le grand problème c'était de trouver les boîtes pour les transporter.
Ouais.
On a une crise énergétique dont la dimension est quand même profondément géopolitique, avec cette originalité qu'elle n'est pas partie du pétrole, elle est partie cette année du gaz, enfin cette année 2021-2022 et probablement au-delà, que ce soit le gaz, que ce soit le charbon. Je dirais que on a eu aussi une crise sur les biens industriels qui commence à se tasser à l'heure actuelle, tout simplement parce qu'elle est aussi liée au rebond extraordinaire de la demande qu'on a connu en 2021. Il ne vous a pas échappé qu'à l'heure actuelle, nous assistons quand même à un reflux économique. Ceci, on le retrouve sur la baisse que l'on connaît aujourd'hui des prix des métaux, des prix d'un certain nombre de matières premières agricoles.
Alors, est-ce que la rupture, Philippe Chalmin, elle n'est pas accentuée par le fait que on voit bien qu'on est aussi en train de basculer d'un monde où les matières premières importantes ne sont plus celles d'hier.
Alors,
on a encore, j'ai envie de dire, les vieilles matières premières, les métaux traditionnels, les hydrocarbures, etc. Et on voit bien que montent quand même aujourd'hui toutes les problématiques relatives aux terres rares et à tous ces métaux qui sont indispensables à toutes les industries de demain.
Oui, c'est vrai, mais à la limite, ça a toujours été. On sait très bien que les usages et l'utilisation des matières premières peuvent évoluer. À la fin du 19e siècle, l'étain était un métal stratégique. Il ne l'a pendant des décennies entières, et il le redevient aujourd'hui, puisque l'étain est indispensable pour les soudures dans le domaine de l'électronique et des semi-conducteurs. Alors, vous avez raison, on a même fait un chapitre dans Cyclope que nous consacrons à ce que nous appelons les métaux électriques, c'est-à-dire les métaux. Vous êtes certainement venu à Aix aujourd'hui avec le froid qui règne en vélo électrique, avec une batterie dans laquelle il y a du lithium, il y a du cobalt, il pourrait y avoir du nickel. Donc vous avez effectivement des tensions sur ces métaux. Mais je dirais pas que. À la limite, l'électrification à laquelle nous assistons, c'est une explosion de la demande de cuivre, qui est un vieux métal. Dr Copper, disait-on autrefois. Ouais. On a assisté à des tensions sur des marchés aussi banals, entre guillemets, que ceux du bois. Une des conséquences de la guerre en Ukraine, il ne faut pas l'oublier, ce sont des tensions sur le marché de l'acier. Aujourd'hui, les gens du BTP, du monde de la construction, construction voient une augmentation tout à fait considérable des prix de leur matières premières, sans compter, et pour faire une liaison avec Hippolyte, que dans ce domaine-là, ils ont aussi de lourds problèmes de main-d'œuvre.
Alors, juste Philippe Chalmin, est-ce qu'il y a vraiment. Quelles sont les matières premières, les commodités pour lesquelles, à votre avis, il va vraiment y avoir des difficultés d'approvisionnement dans les années à venir?
Alors,
où vont être les principaux goulots d'étranglement?
Dans les années à venir, je ne me prononce pas, dans les mois à venir,
oui.
Nous avons un problème majeur à l'automne, en particulier en Europe, c'est le gaz naturel. Gaz naturel, charbon, parce que cette crise, elle intervient en plus en plein moment où nous avions ouvert le flanc à nos dépendances en termes de transition énergétique. Pour le reste, et c'est vrai, nous avons bien entendu les besoins que nous voyons liés à la transition énergétique sur un certain nombre de métaux. Et puis, on l'a aussi quand même découvert, redécouvert. Moi, je trouve qu'il y a de cette guerre en Ukraine en particulier, quelques éléments relativement positifs. Savez-vous, par exemple, que le ministère de l'Agriculture en France, il vient d'y avoir un remaniement, eh bien, le nouveau ministre, il est ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. On reparle de souveraineté alimentaire, de souveraineté énergétique, de souveraineté industrielle même. Et donc, on est en train de se rendre compte, notamment dans le champ alimentaire, c'est bien de parler du lithium, c'est bien de parler du cobalt, mais le défi majeur du 21e siècle, ça va rester de nourrir les hommes. Et il faut se rappeler, alors, oui, il y a une crise alimentaire, elle n'est pas directement liée, elle est plus liée aux achats de la Chine qu'à la guerre en Ukraine. Mais ça nous rappelle cruellement qu'il y a dans ce monde de 7,5 milliards d'êtres humains, 1 milliard d'êtres humains qui souffrent de pauvreté alimentaire. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et la crise aujourd'hui, elle se traduit par une augmentation des prix à l'importation pour de très nombreux pays et donc par des craintes de manifestations, d'émeutes, non point de la faim, mais de la pauvreté.
Alors, pénurie de matières premières, de produits alimentaires, pénurie de main-d'œuvre aussi, Hippolyte Dalbis. Et effectivement, quand on se dit, finalement, dans ce monde où la main, où trois entreprises sur quatre ont des difficultés de recrutement, où la main-d'œuvre semble s'évaporer, on se dit, il y a un réservoir, il y a un gisement d'emploi absolument considérable. C'est le travail des seniors. Est-ce que il faut absolument faire travailler davantage les plus âgés en France, Hippolyte Dalbis?
Alors oui, quoi, ça dépend ce qu'on veut. Mais si on veut être riche, si on veut créer des richesses, si on veut pouvoir financer la protection sociale, si on veut pouvoir financer la transition énergétique, si on veut pouvoir financer l'hôpital, l'éducation, etc., etc., parce que vous savez, les priorités, elles s'accumulent. Je veux dire, tout le monde a besoin de beaucoup d'argent. Donc on dit qu'il faudrait de la sobriété. Moi, je veux bien. Mais si on veut financer tout ça et toutes ces transitions, eh bien, il est nécessaire d'avoir des gens qui travaillent.
Oui, alors,
en fait, l'économie, de ce point de vue, c'est très simple. Vous voyez, vous prenez une population, vous prenez la part des gens qui travaillent dans cette population, et vous avez un très bon indicateur de la richesse de votre économie. Vous voyez, à pays comparable, ça marche très bien.
Alors justement, la France, pour le coup, se caractérise par le très faible taux d'activité de ces plus de 55 ans.
Voilà.
Alors, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi? C'est quoi le problème français?
Vous avez raison. Donc les travailleurs seniors, ce sont les 55-64 ans. Voilà, c'est la dernière décennie en fait sur le marché du travail. Et en effet, la France est un petit peu les derniers de la classe. D'accord. On va revenir sur les questions. Mais cette mauvaise performance, c'est finalement une opportunité. Parce que contrairement aux autres, on a la possibilité d'accroître l'emploi des seniors et donc potentiellement de créer des richesses et de finalement passer les difficultés qui sont à venir, que Philippe notamment a évoquées, mais toutes les turbulences macro que l'on va voir.
Alors, il faut quand même que vous précisiez les choses sur un point, Hippolyte Dalbis, parce que ce que j'entends, ce que nous entendons régulièrement ne colle pas avec les chiffres qui sont publiés. On entend tout le temps que plus d'un senior qui part à la retraite aujourd'hui est au chômage. Vous avez entendu ce chiffre. Quand on regarde les statistiques de la DARES, on voit au contraire que l'âge auquel les gens partent le plus souvent, c'est-à-dire entre 61 et 75 ans, quand ils partent à ce moment-là, il y en a les trois quarts qui sont encore en emploi. Donc est-ce que vraiment on peut dire qu'il y a un retraité sur deux qui, quand il prend quand il fait valoir ses droits à la retraite, est aujourd'hui au chômeur, au chômage ou pas ?
Bon, vous avez raison, hein, c'est un point important. Donc, soit on fait une photographie à un moment donné, voyez, et on regarde parmi les gens d'une certaine classe d'âge, quels sont ceux qui sont en emploi ou pas. D'accord ? Si on fait ça, quel est l'indicateur le plus simple, le plus brutal, si je puis dire, on a 56%. Il y a 56% qui sont en emploi, les autres qui ne le sont pas. Donc, soit ils sont au chômage, soit ils sont en inactivité. D'accord ? Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de regarder la situation un an avant la liquidation des droits à la retraite, ouais. La situation en termes d'emploi des personnes. Et là, c'est complètement différent parce qu'on ne s'adresse qu'aux personnes qui vont, en fait, avoir une retraite, hein, pas à des personnes qui auraient été inactives toute leur vie et donc qui n'auraient pas eu de retraite. Donc déjà, on a un focus un petit peu particulier. Et en plus, bah, au sein d'une génération, tout le monde ne va pas prendre, voyez, sa retraite au même âge. Donc on est obligé d'attendre qu'une cohorte, par exemple, donnée, soit tous passée à la retraite pour pouvoir voir quelle était, via des enquêtes, quelle était leur situation un an avant.
Alors, dans quelle mesure ce recours plus important à l'emploi des seniors résoudrait de façon significative le problème du financement des retraites, le problème de l'équilibre des comptes publics plus généralement, le problème des pénuries de main-d'œuvre dans les entreprises? Est-ce que c'est une vraie solution?
Alors oui, c'est une vraie solution. Donc le débat a tendance à se focaliser sur la question des retraites. Donc là, il y a une espèce d'évidence. Hein. Si les personnes travaillent plus longtemps, eh ben, ils vont cotiser plus longtemps et ne pas percevoir de retraite. D'accord ? Mais je pense que se focaliser simplement sur la question des retraites, c'est un petit peu limitatif. Vous voyez, les personnes en travaillant contribuent à la création de richesses d'une économie, contribuent donc aux recettes fiscales de l'État. Et donc, plus généralement, vous pouvez financer beaucoup plus que simplement le régime des retraites.
Quelle est l'employabilité des seniors aujourd'hui ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est plus grande qu'avant ? Est-ce que, au contraire, elle s'est dégradée ? Est-ce que aujourd'hui, on peut avoir des seniors qui soient performants au travail en France ?
Oui, tout à fait. Et en fait, elle évolue dans le bon sens. On est très bas, mais depuis une vingtaine d'années, en fait, l'employabilité des seniors a augmenté. Et c'est bien pour une raison très simple, c'est que ces seniors-là ont changé. En fait, les seniors d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les seniors d'il y a 20 ans. Donc, non seulement ils sont en meilleure santé, ils ont une meilleure espérance de vie, ils ont une meilleure espérance de vie en bonne santé, vous voyez. Donc ça compte beaucoup pour le travail. Ils sont beaucoup plus qualifiés. Attention, il faut pas oublier ça. Il faut voir tous les progrès qui ont été faits. Et on sait le lien absolument évident entre le degré de qualification et l'employabilité. Et enfin, et c'est un point très important, les femmes, on est sur des générations où les femmes ont beaucoup plus travaillé. Et une des raisons, en fait, de l'augmentation du taux d'emploi des seniors au cours des dernières années, ouais, c'est qu'on voit arriver des cohortes où les femmes travaillent. D'accord. Et des femmes qui ont travaillé toute leur vie, potentiellement, ce sont aussi des femmes seniors qui travaillent. Et c'est pour ça que je pointe dans le livre, en fait, une génération qu'on a tendance un petit peu à moquer beaucoup ces derniers temps, c'est la génération des seniors. Parce que c'est, la génération des baby-boomers. Hein. Donc les premiers baby-boomers, ceux qui sont nés juste après la Seconde Guerre mondiale, hein, c'était 46-47, en fait, ont eu 55 ans au tournant justement du millénaire. Hein. Et c'est qu'à partir du moment où eux sont arrivés dans la catégorie senior, que le taux d'emploi a commencé à réaugmenter.
Oui, mais parce que ce à quoi on a assisté, Hippolyte Dalbi, c'est pour la première fois peut-être à l'apparition d'une nouvelle génération qui n'existait pas avant. C'est-à-dire qu'avant, vous partiez en retraite à 60 ans, etc. Vous étiez vieux. Vous étiez vieux. Alors que là, ce qui est nouveau, c'est vraiment cette génération des 60-75 ans qui est en bonne santé, finalement a quand même des moyens. Et ça, c'est vraiment une génération qui n'existait pas avant.
Oui, tout à fait. Même plus que ça, c'est aussi sociologiquement. C'est une génération qui a révolutionné beaucoup de choses. Vous voyez, en 68, elle a révolutionné la famille, elle a révolutionné la sexualité. Lorsqu'elle est arrivée aux âges des travailleurs seniors, ils ont aussi en partie initié cette révolution qui est celle du travail des seniors.
Est-ce que la principale révolution à faire, Hippolyte Dalbi, ça n'est pas celle de de la réinvention complète de la, du parcours de fin de carrière.
Non, mais tout à fait. C'est aussi l'attitude qu'on peut avoir vis-à-vis des seniors. Et je pense qu'il ne faut pas être simplement avec des injonctions, avec une brutalisation, avec des réformes de retraite qui seraient subies, mais au contraire, écouter justement ces générations seniors, prendre en compte leurs différentes demandes, et notamment de demandes d'aménagement du temps de travail, d'équilibre entre la vie privée, entre la vie professionnelle, et pour mieux les intégrer et pour mieux les faire participer à cet enjeu qui est majeur, qui est celui de l'emploi des seniors. Vous voyez, la société a totalement accepté le fait que des parents de jeunes enfants qu'on puisse aménager en entreprise leur temps et leur donner des possibilités face à la contrainte qui est d'avoir des jeunes enfants. Mais pourquoi est-ce qu'une personne à qui... Bon, c'est typiquement quelqu'un à 35, 40 ans à qui on permet ça. Mais pourquoi à 60 ans ? Cette même personne qui peut avoir des contraintes aussi de la vie familiale, que ce soit des contraintes de santé ou contraintes d'aider un parent âgé, voyez, pourquoi ce ne serait pas pris en compte ? Et en fait, j'insiste, c'est qu'en effet, c'est la conciliation de la vie privée et de la vie, et de la vie professionnelle, c'est tout au long de la vie, d'accord ? De la naissance des enfants jusqu'à ce qu'on ait 60 ans.
Et alors, il y a un autre sujet auquel les économistes s'attaquent depuis peu, d'ailleurs, c'est la logique retraite poursuite de carrière, non pas par rapport à des décisions individuelles, mais par rapport à la décision du couple, finalement, de la famille. Ça joue aussi, ça, maintenant.
Alors, oui, tout à fait. Ça, c'est très important. Donc, non seulement... Donc, on a eu des générations où les femmes travaillaient plus, mais ce qu'on s'est aperçu, c'est que, finalement, les choix... la participation des femmes sur le marché du travail avait une influence sur les décisions de leur mari. D'accord ? Et donc, l'effet, en gros, comme... surtout sur ces générations-là, les épouses sont un peu plus jeunes que leur mari, 2-3 ans. Si elles partent à la retraite, l'âge auquel elles partent à la retraite conduit à repousser finalement l'âge auquel le mari part à la retraite. Monsieur n'a pas envie de partir tout seul à la retraite, il part avec sa femme. Le fait d'avoir une femme qui travaille fait qu'il va repousser son âge de retraite. Donc il y a un effet entraînant, et c'est pour ça que certaines études pointent le fait que le travail des femmes participe à 60% de l'augmentation du taux d'emploi des seniors.
Est-ce que le principal enjeu, Hippolyte Dalby, c'est le Cercle des économistes a publié des travaux récents en ce sens, est-ce que le principal enjeu, c'est quand même pas finalement la formation ? Est-ce que les entreprises n'ont pas trop souvent l'idée que à partir de 45 ans, ça sert plus à rien de former les salariés ? Et est-ce que c'est pas sur vraiment la formation qu'il faut mettre le paquet si on veut que cette génération travaille davantage ?
Non, mais c'est évident. Donc, il faut que les gens soient formés, il faut qu'ils aient des possibilités de se former, mais il ne faut pas se mentir non plus. Vous voyez, une personne qui a quitté le système solaire à 14 ans et qui n'a eu aucune formation digne de son nom pendant toute sa carrière, ce n'est pas à 55 ans qu'elle va acquérir des nouvelles compétences. Donc, cet enjeu, c'est vraiment un enjeu de long terme, et c'est de prise en compte de l'ensemble du parcours professionnel pendant lequel les personnes s'adaptent notamment à l'obsolescence des connaissances et se forment, qui est nécessaire. Et ce qui se fait très naturellement dans les pays scandinaves, c'est vraiment ça, c'est cette attitude-là. Et donc, toute ma vie, je me forme. Et donc, c'est pour ça que lorsque j'arrive à 60 ans, je continue à pouvoir avoir des compétences qui sont valorisables sur le marché du travail.
Dernière question, Hippolyte Dalbiz. Quel est l'état d'esprit des seniors? Leur rapport au travail, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont vraiment envie de continuer à travailler au-delà de 60 ans, ou bien ils ont vraiment une aspiration à ne plus travailler?
Je trouve que pour répondre à cette question, justement, il faut dire qu'il n'y a pas, les seniors, c'est pas juste une catégorie, c'est pas une seule personne. Et c'est différent. Il y a des personnes qui ont un travail qui est épanouissant, qui est intéressant, qui est bien payé, qui sont bien insérés dans la société et qui, eux, ont plutôt envie de continuer. Voilà, ils vont continuer parce que c'est une activité qui leur plaît, c'est une activité qui les épanouit. Mais ceux qui, au contraire, subissent le travail comme une contrainte dans leur vie professionnelle, qui ont l'impression que ça leur rapporte rien, ils sont pas d'accord. Et c'est assez normal. Et si on leur dit, vous allez travailler un an de plus, un an de moins, ils ont l'impression qu'il y a une rupture par rapport à la promesse qui leur a été faite d'avoir une retraite. Et c'est plutôt le contraire. Ils développent un argumentaire qui est presque à l'opposé en disant, ben non, moi je veux en profiter de ma retraite. Si je vis plus longtemps, c'est pour en profiter. J'ai bien travaillé, donc voilà.
Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos deux livres, Hippolyte Dalbis, Les seniors et l'emploi. C'est aux éditions des presses de Sciences Po. Ça coûte 9 euros. Et puis, Philippe Chalmin, la Somme, la Bible, le rapport Cyclope. Combien de contributeurs ?
Alors, une soixantaine, ouais. Avec quand même, je signale que le coordinateur est le plus âgé sur ce plateau, est largement un senior. Ouais. Je crois que notre doyen est octogénaire, et on a quand même pas mal de septuagénaires, ce qui prouve bien, et je vais tout à fait dans le sens d'Hippolyte, que plus... Dans un certain nombre de catégories, la limite d'âge est une absurdité, tant finalement l'expérience peut compter. C'est publié chez Economica.
Chez Economica, et ça vaut 139 euros, mais rassurez-vous, pour l'un comme pour l'autre, enfin non, vous en avez pour plus que 9 euros dans le livre d'Hippolyte Dalbis, mais 139 euros, vous verrez, vous en aurez pour votre argent avec le rapport Cyclope. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho spéciale. Cercle des économistes à Aix-en-Provence. N'oubliez pas de retrouver aussi notre librairie de l'écho spéciale de l'été avec tous nos conseils de lecture. Vous verrez, vous ne vous ennuierez pas de l'été. Et Dieu sait s'il y a des bons livres qui sont sortis au premier semestre. On se retrouve début septembre, fin août même, pour voilà, reprendre une nouvelle saison de la librairie de l'écho. D'ici là, passez un bel été et bonne lecture, bien sûr.